Madame Delcombe, bonjour. Monsieur le Père Samuel est là. Joanne Boulard aussi, également. Comment allez-vous aujourd'hui?
Alors, moi, ça va très bien. Joanne Boulard. Vous mettez un R après le OU. Un Boulard.
Vous l'avez pas entendu, Boulard?
Non, j'ai entendu Boulard.
Ah non, ben, j'ai dit... Non, inquiétez-vous pas, j'ai dit Boulard. Alors,
c'est rien. Okay. Bonjour Ismaël, vous êtes pardonné.
Oui, merci. Merci beaucoup de me pardonner. Père Samuel, est-ce que vous êtes là?
Bonjour Ismaël.
Bonjour Père
Bonjour
Samuel.
Bonjour Ismaël, pour votre équipe.
Merci beaucoup. Alors, je vais vous demander, comme on le fait à chaque fois, à chaque lundi, par quoi commence-t-on et qu'est-ce que vous voulez aborder comme sujet aujourd'hui?
Eh bien, je voudrais parler, puisqu'il y a eu la journée de la femme.
Oui.
Je voudrais parler de l'islam et la femme parce que j'ai entendu une émission sur France 2 dimanche dernier.
Oui.
J'ai entendu quelqu'un qui s'appelle Youssef Siddiq, pour ne pas le nommer, qui a dit un tissu de conneries, un tissu d'imbécilité, un tissu de choses absolument fausses. Alors que nous allons vous donner la vérité du Coran et des textes.
Madame Delcambre, je m'excuse, oui? Pardonnez-moi de vous interrompre. J'aimerais, s'il vous plaît, pour les auditeurs, parce qu'on a, de nouveaux auditeurs, sur la bande FM ici au Québec, ça s'appelle Simi FM 103.7, et j'aimerais que vous nommiez un peu votre pédigree, s'il vous plaît, Madame Delcambre, pour bien éclairer où est-ce que l'on va avec vous, pour être certain que les gens ne fassent pas « Oh, mais elle dit n'importe quoi », on veut vous connaître un peu plus, s'il vous plaît.
Très bien. Alors, je m'appelle Anne-Marie Delcambre. Je suis la femme la plus savante en islamologie de France et de Navarre. Ça fait 40 ans que je consulte les textes de l'islam. Ça fait plus de 35 ans que j'enseigne l'arabe littéraire. Et par conséquent, j'estime avoir le droit de parler d'un sujet qui est mon domaine. J'ai écrit pas mal de livres. Dont le dernier, c'est Soufi ou Mufti, quel avenir pour l'islam. Mais j'ai écrit aussi deux livres sur le prophète, l'un chez Gallimard et l'autre dans une autre maison d'édition, La Découverte. Donc sincèrement, je peux me déclarer spécialiste, je le dis sans modestie, je ne suis pas modeste, que plus compétent. D'abord il y a mon âge qui joue, et puis aussi le fait que quand on a enseigné, pratiqué, écrit des articles sur l'encyclopédie de l'islam concernant le droit musulman, on a le droit de parler. Ça vous suffit comme pédigree?
Ça me suffit énormément, et je vais demander la même chose à vos deux collègues qui sont près de
très
vous.
Très bien, ils vont le faire avec joie. Alors allez-y.
On commence par
C'est le Père Samuel qui vous parle.
Bonjour
je
Père Samuel.
Je suis prêtre catholique. Je suis né en Orient, dans les pays musulmans. J'ai vécu 35 ans dans les pays musulmans. Et j'ai étudié l'islam depuis 40 ans. Eh bien, presque tous nos ancêtres ont été massacrés par l'islam. Nous sommes des rescapés. Eh bien, je suis en Europe pour le moment depuis 30 ans. Je suis belge et fier de l'être. Je parle une dizaine de langues. Par conséquent aussi, une dizaine de langues, je parle parfaitement. Mais ma langue maternelle, c'est l'araméen, la langue du Christ, notre Seigneur. Nous sommes des premiers chrétiens de l'Église catholique, c'est-à-dire de l'Église primitive de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Par conséquent, je parle aussi l'arabe, bien sûr, l'hébreu, l'arabe, le syriaque, le kurde, le turc et les langues, bien sûr, européennes.
Tout à fait. Merci, Père Samuel. Autour de Joanne Boralard, mon cher, s'il vous plaît.
Alors, quant à moi, je n'ai pas l'expérience du Père Samuel et d'Anne-Marie Delcambre, mais je suis traducteur, historien, et je détiens également un master en sciences des religions, spécialisation islam. Je connais également l'arabe, plusieurs langues européennes, et donc voilà.
Livre.
Donc, et bientôt, dans les jours qui viennent, maintenant c'est une question de jours, mon livre sur le djihad va être publié aux éditions de Paris, dans une collection qui s'appelle Studia Arabica. Donc ce livre porte sur le djihad. J'ai mené une étude assez complète sur le sujet. Voilà, je n'en dis pas plus. Je laisserai le lecteur découvrir le livre et tout ce qu'il contient de choses intéressantes et très révélatrice du problème.
Je vous dirais, oui. Monsieur Bourlard, et même autant pour Madame Delcambre, pour vous, Monsieur Bourlard, il est impossible d'avoir une copie pour le www.rockick.com, ce serait apprécié, nous ferions un peu de publicité ici sur nos ondes, parce que nous croyons sincèrement en votre travail, que ce soit le vôtre, ou encore celui de Madame Delcambre, ou encore celui du Père Samuel, ce serait apprécié.
Je me ferai un plaisir de vous envoyer un exemplaire.
Je vous remercie.
Voilà.
Alors, on commence avec vous, Madame Delcambre. Vous étiez bien partie avant que je vous coupe. Allez-y.
Je vous en prie. Pour moi, c'est moins grave que pour un homme. Bon, en ce qui concerne le statut de la femme,
oui.
C'est vrai que ce que n'a pas dit Monsieur Youssef, c'est de dire que ce monsieur qui a parlé France 2, il n'a pas cité, bizarrement, des phrases du Coran qui auraient pu poser quelques problèmes aux femmes. Par exemple, il n'a pas cité la sourate 2, la vache, verset 223, qui dit ceci, mais c'est magnifique. Moi, je dis, en tant que féministe, on peut vraiment sauter au plafond. « Vos femmes sont un chant pour vous, CHAMP. Allez-y comme vous l'entendez. » Et les juristes précisent, « Allez-y, l'avant, l'arrière, vous pouvez même sodomiser vos meufs, sodomiser vos femmes. » Les femmes, vous pouvez vous en servir comme un laboureur laboure la terre. Il n'a pas non plus cité le merveilleux verset de la sourate 4, le verset 34 ou 38. C'est l'homme qui a prééminence sur la femme. Et ce Youssef Sidir dit, oui, mais voilà, c'est l'homme qui a prééminence sur la femme parce que c'est l'homme qui a en quelque sorte le pouvoir économique. Mais non, espèce d'andouille, espèce d'idiot. Il est bien marqué « Idribuhunna », les femmes doivent obéir. Et si elles ne le font pas, eh bien, à ce moment-là, il y a plusieurs solutions. Il peut la forcer, la commander, lui ordonner de garder la chambre. « Allez, tu restes au lit, toi. Allez, Laïla, reste au lit. » Et puis, si ça ne marche pas, la frapper. « Idribuhunna », frappez-les. Alors, Monsieur Youssef Siddir, qui connaît très très bien l'arabe, c'est bizarre comme il est atteint d'amnésie s'agissant de ces versets-là. Il ne cite pas ce merveilleux verset, le verset 34 ou 38 de la sourate 4, qui est la sourate des femmes, intitulée « Les femmes », An-Nissa. Et vous, Monsieur Bourlard, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez frapper votre femme si... Oui.
Ah, si j'étais musulman et si je voulais observer le Coran, évidemment, je devrais battre la femme les femmes que j'aurais épousées, parce qu'il ne faut pas oublier que le Coran légitime la polygamie. Mahomet a réussi à limiter le nombre de femmes à 4, parce qu'avant il paraît que la polygamie était illimitée. Mais s'il a limité le nombre d'épouses à 4, il n'en a pas limité le nombre de concubines. Un homme musulman peut prendre jusqu'à 4 épouses, et s'il craint de ne pas être équitable entre elles, selon le verset 3 de la sourate 4, eh bien il peut prendre des concubines à la place, des esclaves, des femmes qu'il aura capturées lors des guerres et lors des razzias dans les pays ennemis. Donc finalement, mais tout à fait légitime, et elle est même illimitée si on compte que les concubines peuvent être prises sans nombre limité, quoi.
Au sujet de sourate 4, verset 33, « Frappez vos femmes jusqu'à la mort, jusqu'à qu'elles doivent mourir. » Effectivement, Mahomet, le prophète arabe, dit la même chose. « Ayez un fouet devant vous. » Que votre femme voit le fouet et doit avoir peur de vous. Parce que la femme, Mahomet la considère comme un cochon, comme quelque chose qui est courbé. Il faut la frapper. Et quand il a entendu qu'en Perse, en Iran actuel, eh bien, la fille de Khosroès est devenue présidente, il a dit malheur à un pays si ce pays-là a été dirigé, gouverné par une femme. Parce que la femme, vraiment, c'est un cochon. J'ai visité l'enfer et toutes les femmes étaient dans l'enfer. Donc, ça vient aussi de Mahomet. C'est vrai, chapitre 4, verset 34, il est écrit « Frappez vos femmes jusqu'à la mort s'ils ne sont pas obéissantes. »
C'est-à-dire que quand le père parle de la femme, oui, qui est un cochon, il faut préciser que la femme est en fait une source d'impureté pour un musulman. Donc, quand la femme est assez menstruée, une fois par mois, normalement, si tout va bien, eh bien, la femme est impure. pendant tout le temps de ces menstrues. Donc, la femme est une source d'impureté, et c'est vrai qu'à certains moments, elle est comparée à un cochon, je vais dire, dans le sens que Mahomet dit « Il vaut mieux être effleuré par un cochon que par une femme qui ne vous est pas licite. » Donc, il faut savoir que le cochon est un animal impur en islam. Et la femme qui n'est pas licite pour le musulman, c'est-à-dire la femme qui ne lui appartient pas, le fait qu'elle touche un musulman, c'est encore pire que si le musulman avait été touché par un cochon. Voilà pour l'explication.
D'accord, merci.
Je voudrais un petit peu nuancer les propos du Père Samuel. Il réagit en tant qu'oriental, chrétien, pour qui la condition de la femme dans les pays musulmans est vue de manière très défavorable. Moi, je dirais que le prophète a été plus gentil, entre guillemets, envers les femmes que ne l'a été Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, qui lui, effectivement, les menait à la baguette. Mais dans le Coran, il n'est pas dit de frapper les femmes jusqu'à la mort. Simplement, quelques gros types musulmans, ils vont parfois tellement fort qu'effectivement, ça peut prendre... Mais les textes musulmans interdisent justement que frapper les femmes au point de casser un membre ou de... Non, il faut être mesuré dans la correction. Donc là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce que dit le Coran, c'est frappez-les si vraiment elles sont désobéissantes. Mais si elles reviennent, si elles se repentent, alors là, n'exagérez plus. Et ne... Le prophète était quand même beaucoup moins dur que ne l'a été Omar. C'est pour ça que là, je ne suis pas tout à fait d'accord
avec... Je vais vous répondre, Madame Dalcambre, du tac au tac, chapitre 24, verset 2, « Frapper la femme adultère sans coup de fouet. » Alors, quand on va frapper une femme adultère sans coup de fouet, croyez-moi, elle va mourir.
Oui, d'autant plus que, oui, vous dites, effectivement, si la femme trompe son mari, alors là, c'est vrai, les textes sont absolument, mais très sévères. En plus, il ne faut pas qu'il y ait d'indulgence.
Madame Delcambre, ici, j'ai un article qui est affiché au niveau d'un de nos quotidiens. Et cette dame s'appelle Habiba Bamansour, elle est originaire de Tunis. Et elle nous fait part que la femme est extrêmement respectée dans l'islam, donner une naissance à une fille est une bénédiction. Le droit de vote a été accordé par les textes du Coran et la tradition des prophètes. Peu de gens savent que l'islam reconnaît le droit des femmes depuis exactement le 14e siècle. Est-ce que c'est vrai tout ça?
Non, j'accepte pas. D'abord, cette personne est originaire de Tunisie, n'est-ce pas?
Oui.
C'est le même discours qu'on nous et qu'a tenu Youssef Siddiq, à savoir qu'ils confondent le prophète et l'ancien président Bourguiba. Je ne peux pas accepter ce discours tunisien, malgré tout le respect que j'ai pour ce pays, car ils confondent la législation moderne qui n'est absolument pas acceptée par les gens que l'on qualifie d'islamistes. Si vous regardez les textes, c'est tellement faux que je vais vous lire quelque chose, un hadith rapporté par les imams Boukhari et Muslim, qui éclaire le comportement de Mahomet. On raconte qu'une femme avait dit à Mahomet, « Ô messager d'Allah, j'ai forniqué, c'est-à-dire que j'ai fait l'amour, j'ai en dehors du mariage, purifie-moi.
Oui. »
Et sous-entendu, punis-moi. Mahomet l'a renvoyée parce qu'elle a dit j'attends un enfant. Le lendemain, elle est un peu maso, elle dit ô messager d'Allah, pourquoi me renvoies-tu? Je suis enceinte, mais alors il lui répondit non, va-t'en, reviens quand tu auras accouché. Après avoir donné naissance à un garçon, elle lui amena et il dit voilà, je l'ai mis au monde. Et alors qu'est-ce qu'a fait le messager? Eh bien, le messager à ce moment-là, il a ordonné de creuser un trou, le messager c'est Mahomet, hein, de creuser un trou de profondeur suffisante, et puis il ordonna de la lapider. Eh bien, je regrette, je dirais à cette femme ici de Tunisie, que c'est dans les textes, que dans les hadiths, la lapidation elle est prévue, que ce n'est pas du tout un hasard si Hani Ramadan, le frère de Tariq Ramadan, la prévoit la lapidation. Elle n'est pas dans le Coran, mais elle est dans les hadiths, et je voudrais que la Tunisie arrête de nous présenter un islam moderne, un islam édulcoré, un islam inventé par leurs dirigeants et par leurs nouveaux muftis rémunérés par le gouvernement, parce que s'il y a la situation des femmes qui sont lapidées dans la plupart des pays musulmans, ils ne tirent pas ça d'une pochette surprise, mais ils le trouvent dans les textes. Ça, je signe, je persiste, ça, je m'excuse, mais c'est M. Bourgeois.
Alors, en plus, quand vous citez ses propos, elle ose dire que le droit de vote pour les femmes est reconnu par les textes fondateurs de l'islam.
C'est ça.
Mais on est en plein anachronisme. Les textes fondateurs de l'islam datent d'avant l'an 1000. Avant l'an 1000, il n'est pas question de démocratie, d'élection, ça n'existe pas. C'est de la poudre aux yeux qu'on nous jette là, et c'est vraiment de la manipulation. On ne peut pas parler de démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans les textes fondateurs de l'islam. Ça n'existe pas. Ce n'est pas à l'ordre du jour à l'époque. C'est inexistant.
Mais Monsieur Boulard, juste avant, Monsieur Boulard, pourquoi Monsieur Boulard, on nous fait croire lorsqu'ils viennent ici, du côté de l'Amérique, ils nous font croire de telles sornettes? Parce que on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas des experts tels que vous, ou encore tels qu'Anne-Marie Delcamp, ou encore tels que le père Samuel. Et nous, on ne fait que ouvrir la bouche et avaler ce qu'ils disent. Voilà.
Mais oui, mais parce que c'est le même discours qui est tenu en Europe. En fait, il y a des Européens qui veulent entendre ce discours, parce qu'ils veulent absolument... Donc les Occidentaux, il y a des Occidentaux qui veulent absolument se persuader que l'islam, que les peuples musulmans vont s'intégrer comme les autres peuples qui ont immigré en Occident dans les décennies et les siècles antérieurs. Mais il faut bien se rendre compte que la civilisation islamique n'est pas la même que la nôtre, que la civilisation islamique renferme des principes qui sont contraires aux nôtres. Et faire croire aux gens que le droit de vote et la démocratie sont inscrits dans les textes fondateurs de l'islam, c'est un leurre, c'est une tromperie, c'est une escroquerie intellectuelle, comme je lisais dans un article dernièrement.
Mahomet, le prophète des Arabes musulmans, a dit « Faites le contraire ce que la femme vous dit. Il ne faut jamais croire à une femme, même s'il dit le vrai. » Donc les femmes sont des jouets. Un jouet doit vous plaire. Donc les femmes sont vos prisonnières. Dernier discours de Mahomet avant de mourir, vos femmes sont vos prisonnières. Je conseille aux femmes de prosterner tout le temps devant les hommes. Et Al-Ghazali dit, la religion de la femme musulmane, c'est son vagin. C'est inadmissible.
Oui, donc Ghazali, c'est un des plus grands docteurs, un des plus grands savants du monde musulman, qui est mort en 1111. Sa date de mort est très facile à retenir, c'est 4x1. C'est une sommité en matière de mysticisme même. C'est un grand mystique musulman. Et même lui est dans cette logique du mépris de la femme, et dans le sens que les textes fondateurs de l'islam le disent. Parce que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que la femme est inférieure par rapport à l'homme sur plusieurs points. Elle est inférieure au niveau de l'héritage, parce qu'elle a la moitié de ce que l'homme hérite. Son témoignage ne vaut que la moitié de celui d'un homme en affaires judiciaires. Elle est aussi inférieure dans ce sens que c'est son mari qui la prend en charge et qui l'entretient. Elle est inférieure en ce sens qu'elle n'a pas le droit de prendre plusieurs maris, alors que son mari, lui, a le droit de prendre plusieurs femmes. En cas de divorce, c'est le mari qui obtient systématiquement la garde des enfants, puisque la femme n'est pas considérée comme une personne majeure et en pleine possession de ses moyens. Elle, intellectuellement, elle est considérée comme une personne inférieure. Elle est mineure tout au long de sa vie.
Et quand vous parlez de divorce, M. Bourlard, vous avez tort de parler de divorce, parce que ça supposerait l'égalité entre l'homme et la femme. Oui, c'est la répudiation. C'est-à-dire que l'homme peut très bien dire, imaginez, il y a plusieurs formes de répudiation que la Tunisie a totalement oubliées, parce que le droit musulman, il ne le consulte plus guère. Et c'est-à-dire que l'homme peut dire, par exemple, Laïla, fais-moi le café, c'est raté, alors je te répudie. Il peut revenir sur sa parole et dire, non, j'ai déraillé, reviens. Mais s'il le dit trois fois, je te répudie, salasan, trois fois, alors là, il ne peut plus la reprendre. Il faut que la femme épouse un homme dans l'intervalle pour qu'elle soit de nouveau, il puisse la reprendre.
Et qu'elle ait été elle-même répudiée
par son deuxième mari.
Donc alors, c'est un véritable jouet. Quoi.
Je pense qu'en plus, ce qu'il ne vous dit pas, la charmante Tunisienne, c'est que la femme qui a ses menstruations, qui a ses règles, une fois par mois, elle est impure comme un chien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'homme ne doit pas... Parce que là elle devient vraiment... C'est grave. Alors, moi, tout ce discours qui tente à nous montrer que jamais une religion n'a été aussi gentille, aussi douce, aussi tolérante pour les femmes. Je dis mensonge, mensonge, mensonge. J'ai envoyé à Daniel Pipe son article sur désinformation islamique et les intellectuels français. C'est vrai qu'actuellement en France, il y a un discours de tous les intellectuels qui disent « Jamais il n'y a eu autant de douceur pour la femme qu'en islam. Jamais il n'y a eu un prophète qui a été plus tolérant que Mahomet pour les femmes. » Je dis alors, comparer Mahomet qui dit qui laisse la femme répudiée qui après prie sur son cadavre, alors que Jésus, même si moi je m'en fous des religions, mais on lui amène une femme adultère, et justement, les juifs qui sont là disent « Qu'est-ce qu'on fait ?» On commence à jeter des pierres,
oui.
Et il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il y a quand même une différence de traitement.
Oui.
Le christianisme n'a jamais ordonné la lapidation pour la femme qui a trompé son mari.
Voilà toute la différence, parce qu'il est vrai qu'au cours de l'histoire du christianisme, on a aussi des cas de misogynie où la femme a été infériorisée, mais quand on compare, comme l'a très bien fait Mme Delcambre, les fondateurs des religions, donc le fondateur du christianisme, le Christ, et le fondateur de l'islam, Mahomet, leur attitude respective vis-à-vis des femmes est diamétralement opposée.
Donc, le cas
de la lapidation est très emblématique. Mahomet fait lapider une femme adultère, alors que Jésus, lui, ne le condamne pas la femme adultère et dit aux gens, celui qui n'a jamais péché, ben, qu'il lui jette la première pierre.
Et M. Bourlard, en temps normal, on nous traite automatiquement d'islamophobes si on les contredit. Comment contrer ce genre de... Parce que c'est quand même très facile. Aussitôt que quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, ben, vous êtes islamophobe, vous êtes homosexuel, vous êtes homophobe, vous êtes misogyne. Vous comprenez un peu où est-ce que je veux en venir?
Oui, oui.
Comment être en mesure de contrer ce genre d'arguments faciles lorsqu'ils en ont plus, eux, à titre de munitions?
Il faut utiliser leurs armes, c'est-à-dire leurs textes fondateurs. À partir du moment où vous citez le Coran, quand vous le remettez en contexte, que vous citez ce que Mahomet a dit et fait, là, c'est difficilement contestable. Et si en plus de ça, vous leur redites en arabe ce que vous venez de dire en français, en reprenant le verset texto dans le Coran, alors là, ils ne peuvent rien dire. Ils sont coincés.
Eh bien, il est écrit dans le Coran, le livre sacré des musulmans, chapitre 2, c'est-à-dire sourate 2, verset 221. Surtout, il dit, ne donnez pas vos femmes aux non-musulmans. C'est vraiment du racisme. Or Mahomet lui-même, il s'est marié 15 fois. Troisième mariage était avec une fille de 6 ans. Il la dévirginisa quand elle avait 9 ans. Si Jésus avait fait ça, que diraient nos intellectuels? Ils diraient c'est de la pédophilie. C'est vraiment assez honteux.
Oui, c'est ça. Il faut aussi rappeler que le comportement de Mahomet vis-à-vis des femmes est donc un comportement qui vaut encore aujourd'hui, puisque Mahomet est le beau modèle. Donc même s'il a vécu il y a 13 siècles en Arabie, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait est valable en tout temps et en tout lieu parce que c'est le prophète d'Allah. Or, Mahomet, qu'a-t-il fait? Il a épousé jusqu'à 15 femmes dans sa vie. Il en a eu 9 en même temps et la tradition rapporte qu'il, en une seule nuit, il est arrivé à visiter toutes ses femmes pour louer ses prouesses.
C'est-à-dire, il couchait avec toutes ses femmes, c'est ça que vous voulez
dire? Voilà, pour louer ses prouesses
sexuelles. Et pour appuyer ce que dit le Père Samuel, dans le sourate 2, la vache, verset 221, et n'épousez pas les femmes associatrices, pouvez-vous dire, cher Ismaël, vous pouvez poser la question à n'importe quelle musulmane, leur demander, est-ce que vous êtes prête à épouser un non-musulman? Si elles sont franches, elles vous diront oui, mais sous-entendu, s'il se convertit. Et moi, je dis alors là. Alors que le musulman peut épouser les filles des gens du livre, il peut épouser une juive ou une chrétienne, eh bien, la musulmane n'a pas le droit d'épouser un non-musulman qui ne se convertit pas. Alors moi, je demande aux musulmans, ne mentez pas, ne mentez plus. Si vous ne mentiez pas, eh bien, on n'aurait pas... Parce que s'ils disaient la vérité, on ne trouverait pas les musulmans qui ont les comportements qu'on voit dans les différents pays musulmans. À savoir que la lapidation, on lapide la femme adultère, tout ce que l'on trouve dans le Coran. Ne mentez pas. Je dis aux musulmans et aux musulmanes, arrêtez.
Tribunal de la charia, quoi.
Oui,
exact.
À cause de ces mensonges, on a aussi affaire à ce qu'on appelle les raptes parentaux. Combien de mariages mixtes se terminent par des enlèvements d'enfants? Le mari musulman qui a épousé une européenne ou une canadienne, une occidentale, qui elle ne s'est pas convertie à l'islam, elle reste une infidèle et en cas de désaccord, eh bien le père ne demande pas son reste, il prend ses enfants avec lui et retourne dans son pays d'origine avec les enfants et laisse la femme en plan en Occident.
Un peu comme
ça arrive très souvent.
Un peu, monsieur Bourlard, un peu comme le livre Jamais sans ma fille.
Voilà, c'est un excellent exemple.
Voilà.
Oui.
Eh bien, Mahomet a dit, le prophète des Arabes musulmans, vous pouvez coucher avec votre femme même sur un chameau. C'est invraisemblable.
Il y a même mieux. Il a dit, une femme ne doit jamais se refuser à son mari, même au bord d'un four. Allumé. Alors, un four, c'est-à-dire quelque chose qui est allumé pour faire le pain.
Oui, oui c'est vraiment... Et d'ailleurs, un autre hadith dans ce genre, il est dit que quand un mari appelle sa femme au lit le soir et qu'elle refuse, les anges la maudissent jusqu'au lendemain matin, ou jusqu'à ce qu'elle se rende dans le lit de son mari. C'est dans la tradition islamique, donc c'est considéré comme des paroles, si pas sacrées, du moins tout à fait vénérables et qui sont dignes de respect.
Et le prophète a ajouté que si vraiment on demandait par exemple ce que la femme devait faire, il a dit qu'elle doit s'incliner devant son mari, et presque jusqu'à lui lécher, même s'il avait plein de pu, elle devrait le lécher.
Deuxième calife Omar,
oui.
Calife musulman, il disait ceci, il ne faut jamais enseigner la femme à écrire et à lire. Il faut qu'elle reste toute nue dans leur maison pour qu'ils ne puissent pas sortir sur le chemin. C'est vraiment inadmissible.
D'ailleurs, c'est Omar, il y avait, quand le prophète vivait à Médine, les femmes, comme il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas de cabinet, il n'y avait pas de toilettes dans les maisons, elles sortaient un peu pour faire leurs besoins la nuit. Et le prophète, justement, c'est Omar qui a dit, il a dit à Mahomet, il faut que tes femmes, elles soient voilées, parce que sinon, eh bien, on peut les interpeller comme ça. Donc, c'est vrai, c'est absolument impossible de dire, et de dire qu'en islam, le statut de la femme est un statut, à admirer. On ne peut pas faire l'apologie. C'est impossible. On peut dire qu'il y a l'aumône en islam, ça c'est sûr, je serais d'accord, mais sur ce point précis, de l'islam et la femme, ou l'islam et la guerre sainte, ceux qui essaient de dire, mais non, le jihad ne veut pas dire guerre sainte, mais non, l'islam est très 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 bien avec la garde des femmes. Alors je dis, là, c'est du mensonge, ils nous prennent pour des crétins, ils nous prennent pour des naïfs, et à force de pousser le bouchon trop loin, ça risque de leur exploser à la tête.
Vous voulez dire, Madame d'Alcambre, nous devons dire les quatre vérités de l'islam. Sinon, les Européens toujours vont avoir des problèmes avec les musulmans. Effectivement, quatrième calife, Ali, le gendre de Mahomet, mort en 661, il disait « La femme est maléfique. Ne suivez jamais ses conseils. Jamais. » Et Al-Ghazali ajoute « La femme, c'est une cause de trouble. » Une cause de trouble. Et Mahomet disait « Je ne le laissais pas en trouble dans le monde. Un trouble, c'est la femme. Il ne faut jamais la suivre ni l'écouter. »
Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il est impératif pour nous occidentaux de les textes fondateurs de l'islam pour savoir quand les intellectuels musulmans disent la vérité et quand ils nous racontent n'importe quoi. Il ne s'agit pas de se laisser berner plus longtemps parce que la situation ne fait que s'aggraver. On nous fait avaler des couleuvres, on nous fait prendre des vessies pour des lanternes.
J'aimerais vous donner un autre exemple à vous trois,
oui.
Toujours en lien avec ce que je vous lisais concernant cette dame. Ici, au Canada, au Québec, nommée Habiba Mansour, qui est originaire de Tunis, de Tunis exactement, et qui nous dit, vous savez, les femmes, comme les hommes, ont accès à l'université, elles ont le droit au savoir, parce que je vous écoutais tout à l'heure, Madame Delcambre, et vous disiez que les femmes n'avaient pas le droit au savoir, pourtant... On dit tout le contraire, qu'ailleurs, elles ont droit au savoir et que c'est totalement faux, l'image qu'on peut y voir dans certains médias qui nous proviennent de l'extérieur, du côté européen, bien sûr.
Mais c'est-à-dire que dans ce cas-ci, vous citez encore une femme, une Tunisienne.
Oui.
Donc, marquée par une législation assez marquée par la laïcité.
Voilà.
Donc, évidemment, dans une législation moderne qui ne tient pas compte du Coran, qui ne tient pas compte de Mahomet, bien évidemment que la femme ira à l'université. Mais alors, c'est malgré les textes fondateurs de l'islam, en dépit des textes fondateurs de l'islam. Mais si on veut suivre le Coran, si on veut suivre l'exemple donné par Mahomet, la femme n'a pas le droit d'accéder aux différents savoirs, si ce n'est que le savoir religieux minimal, parce que Il y a aussi ça, un leurre, un mensonge sur les termes. Quand on dit le savoir en arabe, « ilm », le savoir par excellence, c'est quoi ? C'est le savoir religieux, la connaissance du Coran, la connaissance des paroles et actions du prophète. Rien à voir avec le savoir scientifique, qui est le nôtre aujourd'hui. Rien à voir avec les mathématiques, l'astronomie, la biologie, l'histoire, la philosophie. Non, non. Ouais. Le ilm, chez les musulmans, le savoir par excellence, c'est le savoir, c'est le Coran.
Monsieur Bourla, autre chose, oui. Mais qu'est-ce qui les agace à ce point ? Mais
attendez, pour répondre, la parole au Père Samuel, le problème, c'est vrai que l'islam a toléré, le prophète a toléré que les femmes soient savantes, instruites dans le savoir religieux, comme le dit Monsieur Bourla, et ce qui m'énerve par rapport à cette apologie, ces apologistes qui disent « Mais regardez, les femmes vont à l'université, etc. » Oui, parce qu'ils se sont écartés des textes. Mais si on prend ceux qu'on appelle les islamistes, eux ne s'écartent pas des textes religieux. Ils restent sur les textes fondateurs. Et la seule égalité qu'il y ait entre hommes et femmes en islam, il faut le dire, c'est l'égalité, sourate 33, verset 34 ou 35, une égalité entre croyantes et croyants. Ah ben oui, dans la religion, pour pratiquer la religion, encore que on trouve des hadiths qui disent que la femme, quand elle a ses règles, elle ne peut pas jeûner, elle ne peut pas prier, etc. Donc elle en fait moins, si je puis dire, que son bonhomme. Donc par conséquent, elle est inférieure.
Eh bien, Madame Dalcombe, jusqu'à maintenant, dans les pays arabes musulmans, 65% des femmes ne savent pas lire et écrire. Absolument, donc, ne savent pas lire et écrire. Précisément, maintenant, il vient en Europe, bien sûr, il y a une rivalité, il désire d'être un petit peu intellectuellement comme les Européens, tant mieux, mais resteront toujours musulmans et dans le paradis, par exemple, c'est l'orgie, chaque musulman a 66 femmes, c'est vraiment honteux. Tandis que dans le christianisme, dans l'évangile, dit, eh bien, dans le ciel, on devient comme des anges. Tandis que dans le paradis, chacun musulman a 72 femmes musulmanes, ça s'appelle le khouri. C'est vraiment inconcevable.
Alors, surtout pour vous, mon père, parce que les 72 femmes, vous pourrez les consommer, elles redeviendront vierges et les déflorer, et à chaque fois, c'est un nouveau plaisir. On les décrit, elles sont blanches avec des beaux petits seins un peu fermes. C'est vraiment un plaisir extraordinaire. c'est un paradis qui peut attirer certains hommes.
C'est très pédophile, Madame Dalcombe.
Tout à fait. D'autant plus, très juste comme remarque, d'autant plus que près des élus, si je puis dire, des gens au paradis qui seront couchés sur des sofas, circuleront des éphèbes et des jeunes garçons. Et c'est vrai ce que vous dites, puisque il est dit qu'un jeune garçon qui est sans barbe et tout, c'est presque plus attirant qu'une bonne femme. Parce que les bonnes femmes, un peu, c'est comme une marmite en or, tandis que les jeunes garçons, c'est succulent.
Oh, succulent.
Une histoire très célèbre d'un chrétien qui en Espagne, au cours du IXe siècle, a été victime d'un calife, d'un seigneur musulman.
Oui.
Ce seigneur musulman avait vu ce jeune homme de 13 ou 14 ans, un jeune homme chrétien. Il s'appelait Pelayo en espagnol. Et le jeune homme s'était refusé à lui. Eh bien, il l'a fait décapiter, tout simplement.
En ce qui concerne, pour répondre encore à cette charmante Tunisienne, si vraiment le statut de la femme était si idyllique, pourquoi fait-on tant d'histoires quand les hommes et les femmes sont en présence ? Pourquoi dans nos hôpitaux, quand il y a une femme qui va être examinée par un médecin homme, le bonhomme arrive pour casser la gueule au médecin ?
Ça, c'est vrai.
Pourquoi il y a cette tradition qui dit que lorsqu'un homme et une femme sont en présence, Satan est au milieu des deux ? Attendez, là, il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Sinon, on n'aurait pas tous les problèmes qu'on a dans les hôpitaux, dans les écoles et tout, chaque fois qu'un homme est en présence d'une femme. Meurtre, bordel de merde.
C'est vrai. Même les piscines maintenant possèdent des horaires particuliers. Il y a des heures alors, réservées aux femmes musulmanes.
Mais pourquoi ?
Voilà, donc il n'y a pas d'égalité. Il y a inégalité et ségrégation, tout simplement. Ségrégation. C'est de l'apartheid, quoi, si on veut.
Exactement.
Non, c'est vraiment assez regrettable que le Coran, le livre sacré des musulmans, allèche les jeunes musulmans pour qu'ils deviennent des kamikazes. Parce que dans le ciel, il y a le paradis, l'orgie pour les filles. Et pour les garçons, c'est vraiment inacceptable.
Et les femmes,
ce que veut dire le père Samuel,
qu'à...
c'est que si les garçons partent pour faire la guerre sainte avec autant, les garçons musulmans, avec autant de désir, d'enthousiasme, c'est pas du tout uniquement pour, comment dirais-je, faire la guerre, c'est parce qu'ils savent que la récompense, c'est le paradis, où ils pourront déflorer à fond des meufs, les avoir là, pouvoir en quelque sorte avoir des viandes succulentes, des fruits, des arbres fruitiers, des fontaines.
Déflorer des meufs, oui, elle est bonne celle-là.
Et en plus, je vous ferai remarquer, vous pouvez demander à la Tunisienne, que dans les textes, si une femme est violée, eh bien, elle est condamnée. Eh bien, oui, parce que la femme, c'est pas, elle ne peut être que porteuse de
C'est un véritable torchon, la femme, au niveau de l'islam. C'est incroyable, incroyable. J'aimerais, c'est tout le temps qu'on a, mais est-ce qu'il est possible qu'on puisse se reparler la semaine prochaine, même heure, même poste?
Tout à fait. Je viendrai de nouveau de Paris à Bruxelles.
Je me régale.
Je veux porter la bonne parole.
Je me régale de vous avoir les trois ensemble. Je vais appeler ça une bombe atomique.
Vous avez raison, c'est trois bombes. Trois bombes qui font exploser les mensonges et la désinformation islamique.
J'aime bien ajouter encore une parole d'un savant musulman, Nefzawi. Il est mort au XVIe siècle. Il disait ceci: la religion des femmes musulmanes, c'est leur vagin. Les femmes sont des démons. Ce sont des êtres perfides. Surtout, ne les suivez pas.
Voilà. Donc, jamais un père de l'Église, du côté chrétien, n'a eu de tels propos vis-à-vis des femmes. Il y a eu des propos misogynes, certes, mais d'une telle violence, ça n'existe pas. C'est inédit dans le christianisme. Voilà.
Merci à Anne-Marie Delcambre. Merci au père Samuel. Joanne Bourlard, j'espère que je l'ai bien dit.
Oui. De toute façon, bientôt, je vous enverrai mon livre et là, vous aurez mon nom en toutes lettres.
Oui, je l'ai ici, Joanne.
Vous avez mon nom déjà. Mais bientôt, vous aurez mon livre. Je me ferai plaisir de vous l'envoyer.
J'aime bien ajouter encore.
Oui.
Mahomet a pris même la femme de son fils adoptif. C'est vraiment honteux. Ça s'appelait Zainab. C'est honteux.
Voilà. De toute manière, il y a une chose qui est sûre, c'est et Madame Delcambre, je crois que vous me l'avez déjà dit, c'est parce que j'ai le cul béni, justement, que vous revenez me parler ici. Voilà, à cause de mon prénom.
Non, parce que vous appelez Ismaël et que pour les musulmans, surtout les arabo-musulmans, c'est vraiment un nom prédestiné.
Et vous racontez, Madame Delcambre, comment il a pris la femme de son fils adoptif. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, en deux secondes, un jour, il est entré, son fils adoptif s'appelait Zaïd. Un jour, il est entré chez Zaïd et il a vu la femme en déshabillé, affriolant. Et paf, ça a été le coup de foudre. Et alors, c'était drôlement gênant. Et le fils, il s'est dit, oh là là, il faut que je répudie ma femme pour que mon père adoptif puisse épouser ma femme. Et c'est alors qu'un verset du Coran est descendu. Mais n'ayez pas peur. Sourate 33, verset 37. Et c'est la traduction de Si Hamza Boubaker, le père de l'actuel Dalil Boubaker. Lorsque Zaïd ne la désira plus, nous, Allah, nous te la donnâmes comme épouse, afin qu'aucun grief ne soit fait aux croyants qui épousent les femmes de leur fils adoptif. Mais Zaïd, le pauvre, peut-être qu'il désirait encore sa femme. Quel mensonge!
Mais voilà, et donc, il faut vous rendez compte que ce scandale, on va appeler ça comme ça, est légitime. Le Coran, une parole qui est soi-disant descendue du ciel pour dire « Oui, tu peux prendre la femme de ton fils adoptif, il n'y a pas de problème ». À tel point que
Aïcha a été contente.
Oui, son épouse favorite n'a pas été très contente de ce qui lui était arrivé. Elle a dit: en vérité, ton Dieu semble avoir été bien rapide pour satisfaire tes prières. Parce qu'il suffit que Mahomet s'adresse à Allah pour savoir ce qu'il doit faire, et Allah directement lui dit: oui, ça va, tu peux prendre la femme de ton fils adoptif, il n'y a pas de problème.
Je vous remercie. Je vous remercie, je dois couper dès maintenant.
D'accord.
La semaine prochaine, on aura encore un bon 30 minutes ensemble, tout aussi explosif et rappeux comme on vient de le faire. Je vous remercie à vous trois et à lundi prochain.
Ok, à bientôt. Au revoir.
Au revoir. Alors, en direct de Belgique, vous venez d'entendre Anne-Marie Delcambre, Joanne Bourlard et le père Samuel.